Bonjour à tous.
Bonjour,
et joyeuse Pentecôte à chacun. Que Dieu vous bénisse. On va faire une lecture dans Actes chapitre 1, versets 1 à 5. C'est Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres, il faut le savoir. Alors, il écrit à Théophile. Théophile, de mon premier livre, dans l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres qui étaient réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait. Et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée le Mont des Oliviers, qui était près de Jérusalem à la distance d'un kilomètre environ. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où se tenait d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jacques, Jean, André, Thomas, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, pendant 40 jours, ceux qui ont suivi la résurrection, Jésus s'est manifesté aux apôtres par intervalles, dans certains cas à des personnes isolées, dans d'autres cas tous à la fois. Il y a même un texte qui dit qu'il s'est montré à 500 personnes à la fois et il les a instruits en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le récit biblique ne précise pas toujours le moment et le lieu de ces événements, mais il n'y a aucun doute à avoir au sujet de l'importance des enseignements que Jésus leur a donnés pendant cette période. On va lire dans Jean 20, 30... Jean 20, 30. Voilà. Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans Jean 21-25, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. À cette époque, évidemment, il y avait beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui. Mais enfin, quand même, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais il n'a pas été en Inde. Ces textes nous disent qu'une grande partie qu'il a dit est faite, n'est pas écrite, mais que celles qui sont écrites, Jésus nous assure d'une chose, c'est qu'elles sont très importantes. On l'a lu dans Jean 20, 30 et 31. Et ce qui est écrit dans nos Bibles a été écrit pour que nous croyions en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. La vie par l'existence. Comme le moment de son ascension arrivait, Jésus leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On trouve ça dans Marc 16, 15 à 18. Il est dit, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Alors, en contraste avec leur mission précédente, dans laquelle ils étaient envoyés uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, on trouve ça dans Matthieu chapitre 10, 5, 6, là, il devait maintenant aller vers les juifs et les non-juifs, ce qu'on appelle les gentils, vers l'humanité en général. Et quelles que fussent leur nation, leur couleur de peau, leur culture, leur pays, leur langue, le salut par la foi au Seigneur Jésus-Christ, suivi du repentir et du baptême, doivent être offerts à tous. Parce que ceux qui rejettent l'offre tombent sous la condamnation. De quelle offre il est question là? Ceux qui refusent l'offre, c'est-à-dire ce qui est écrit, pas ce que les gens racontent. Hein. Ce que les gens racontent, moi je ne peux pas baptiser ma foi sur ce que les gens racontent. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous êtes très souvent dans l'erreur. Je lis des choses, j'entends des choses invraisemblables. Jésus a promis que des signes et des miracles accompagneront ceux qui auront cru, confirmant ainsi leur foi en la puissance de Dieu. Mais les signes et les miracles ne doivent pas servir d'appât aux chercheurs de miracles. Vous voyez, les gens qui courent dans les réunions pour aller voir les miracles. Jésus n'a jamais dit que c'était ça le but. Jésus a assuré que les promesses se réaliseraient par la venue du Saint-Esprit, et Jésus a ordonné aux siens de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. On trouve ça dans Luc 24, 49. Il dit aussi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, c'est-à-dire immergés dans le Saint-Esprit. Mais les disciples n'ont rien compris à tout ça. Ils n'ont rien compris. Ils étaient imbus de leur conception que le royaume de Dieu devait être l'établissement d'un pouvoir et d'une domination territoriale. Et c'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ils ne comprenaient rien. Ça allait être très, très décourageant. Et Jésus leur a répondu, non, c'est pas ça. Acte 1, 7. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, ni à vous, ni à personne. D'accord ? Mais vous, vous recevrez une puissance lorsque Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui fait dire à certains que le Saint-Esprit est une puissance. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est un et il a un esprit, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus saint que l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus dit qu'il viendra vivre en nous. C'est pareil, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, tout ça c'est la même chose. D'accord? Donc le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, mais quand Dieu est en vous, vous avez la puissance de Dieu qui est en vous. Vous serez baptisés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et ils ont reçu leur devoir a été défini, et il a été souligné de la manière suivante. On trouve ça dans Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, 19, 20. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous noterez que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres n'ont jamais fait ça. Parce qu'ils savaient très bien que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. D'ailleurs, c'est écrit au nom au singulier. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Et pourquoi ils ne comprennent pas? La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont enseignés par des incrédules, par des gens qui ne croient pas ou qui croient faux. Alors, voilà ce que je vous dis. Et Jésus a été enlevé au ciel, et deux anges leur sont apparus, leur disant, vous, Galiléens, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à regarder au ciel ce Jésus qui était enlevé au ciel au milieu de vous? Il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. On trouve ça dans Actes 1, 19 à 11, on l'a lu, mais aussi dans Luc 24, 50, 51. Alors, les disciples, pleins d'adoration, animés d'une grande joie, sont retournés à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit, qui est aussi appelé le Consolateur, c'est-à-dire celui qui soutient. C'est ce que c'est qu'une console, c'est quelque chose qui soutient. Et puis le monde a reçu depuis la promesse que Jésus-Christ est monté au ciel avec son corps et qu'il reviendra avec son corps. Un corps immortalisé de chair et d'os, descendant des cieux, sur le mont des Oliviers, dans une forme et une substance matérielle semblable à celle que les disciples ont vue quand il est monté au ciel. Donc, si on vous dit, voilà, il est là, là, il y a des noirs qui disent qu'ils sont Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un peu plus de 2000 ans après, eh bien, nous sommes aujourd'hui en train de fêter le jour de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, les disciples étaient tous ensemble avec les femmes, avec la mère de Jésus, avec ses frères. Ils étaient dans une chambre qu'on appelle la chambre haute, que Michou et moi nous avons visitée. Nous savons très bien que ce n'est pas la vraie chambre haute parce que elle est faite dans un style qui n'existait pas au temps de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont des menteurs et préfèrent les mensonges à la vérité. Ben, qui croient les mensonges, tout, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que j'essaie de prouver? Je ne veux pas perdre mon temps à essayer de prouver les choses. Vous voulez croire des mensonges, ben croyez des mensonges. Et il s'attendait à recevoir donc une investiture personnelle de puissance d'en haut. Ce baptême promis, un baptême de feu et du Saint-Esprit, et le jour de la Pentecôte est arrivé. Alors on va lire dans Actes 2:1-5, Actes 2:1-5. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui fait dire aux pentecôtistes que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue. Non, le signe initial qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'on est des témoins. pour recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Le fait de parler en langue, c'est quelque chose qui est donné à ceux qui croient et qui sont des témoins. Je vais vous expliquer ça. Ça n'a pas changé pour ceux qui croient aujourd'hui. C'est toujours pareil pour aujourd'hui. Pas seulement pour le jour de la Pentecôte, mais pour tous les jours. Jésus avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Et bon, ceux qui croient, ils ont des signes qui les accompagnent. Et j'ai cru, et en juin 1969, j'ai reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, et depuis, eh bien, je parle en langue tous les jours, tous les jours. Et il est arrivé que des étrangers comprennent ce que je dis, et quand je parle en langue, alors que moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Mais la plupart du temps, quand je parle en langue, c'est pour m'édifier moi-même. On trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 4. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, les dons spirituels, il y en a 9, hein, dont le parler en langue, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça peut arriver. C'est arrivé le jour de la Pentecôte que des gens qui étaient là de l'étranger les ont entendus parler dans leur propre langue. Et bon, ça m'est arrivé aussi. Mais il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, recherchez donc, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. À quoi vous serais-je utile si je venais à vous et que je vous parle en langue dans la figure? J'aime mieux vous apporter une parole par révélation, par connaissance, par prophétie ou enseignement. Paul était quelqu'un d'équilibré. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en langue. Mais celui qui parle en langue, premièrement, c'est à Dieu qui parle, il dit des mystères, personne ne le comprend, à part, bon, ça peut arriver, si par exemple je me mets à parler anglais, et puis qu'il y a des anglais, ben ils vont comprendre ce que je dis, ça m'est arrivé. Mais je m'édifie moi-même. L'apôtre Paul dit, là, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a encore beaucoup d'incompréhension dans la tête des croyants parce qu'ils croient ce que des pasteurs, souvent incrédules, croient et enseignent plutôt que d'enseigner ce que la Bible dit. Et pourtant, ce passage de 1 Corinthiens 14 est « on ne peut plus clair ». Mais bon, ils ne croient pas, alors ils ne parlent pas en langue. Ne parlant pas en langue, ils disent « c'est du baragouin ». C'est invraisemblable. La promesse est pour ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas dans cette promesse ne savent rien à part ce qu'ils imaginent. Quand les gens ne connaissent pas bien la Bible, ben, ils imaginent toutes sortes de choses. Hein. Vous savez, quand on chasse les démons, par exemple, ou quand on impose les mains aux malades et que les malades sont guéris, eh bien, il y a une force qui sort de nous. Et nous avons besoin d'être édifiés et fortifiés. Et rien ne vaut le parler en langue pour s'édifier soi-même. Souvenez-vous du jour où une femme est venue et a touché le bord du vêtement de Jésus, et elle a été guérie, et Jésus s'est retourné, il avait quelqu'un m'a touché, et les apôtres ont dit, mais tout le monde te touche. Oui, mais j'ai senti une force qui sortait de moi. Ah, Luc chapitre 8, verset 46. Quand on prie pour les malades, quand on donne la guérison à quelqu'un, il y a quelque chose sort de nous et on a besoin ensuite, c'est fatigant pour le corps. On a besoin d'être édifié, même spirituellement, on a besoin d'être fortifié, d'être édifié. Celui qui prie pour les malades et qui a des guérisons, des miracles, sait de quoi je parle, les autres ne savent pas. C'est comme ça. Alors oui, je me retire, je parle en langue, et ainsi je suis édifié. Puis je peux continuer. Le contraire d'édifier, d'après le dictionnaire, c'est anéantir, détruire, miner, renverser, saper. Édifier, d'après le dictionnaire, signifie bâtir, construire, élever. Celui qui parle en langue, il s'élève, il se construit, il se... Alors Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Ah bon, l'apôtre Paul était un de ces bobets qui baragouinait en langue. Vous croyez ça? Voilà où vous, dans quel casier vous réduisez Paul? Un bobet qui baragouinait? Non, il était un croyant, lui, qui travaillait dans la vigne du Seigneur et qui avait besoin de renouveler ses forces spirituelles. Et voilà pourquoi il parlait beaucoup en langue. Vous me suivez? Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, la venue du Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour faire les mêmes choses que Jésus faisait. Il a dit, vous ferez les mêmes, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que j'ai faites et même encore plus grandes. Alors, il nous donne le pouvoir de nous édifier nous-mêmes, on en a besoin. Comme lui en avait besoin, Jésus se retirait pour prier parce qu'il était aussi dans un corps d'homme, il était aussi humain. Et à la fin de la journée, il était fatigué. Hein. Alors la théologie a changé les serviteurs de Dieu, ils ne croient plus au miraculeux. J'écoutais un pasteur qui racontait ça, que le temps des miracles... Le temps des miracles est passé parce que ce qui est parfait est venu. Ah bon? Oui, c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, 8, 10. 1 Corinthiens 13, 8, 10. Alors, je vous le lis. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'étais connu. Alors, je connais des religieux qui ont un prophète, qui faisait beaucoup de miracles. Mais comme il est mort, ils disent, voilà, ce qui est parfait est venu, maintenant c'est fini, il n'y a plus de miracle. Ah bon, ce prophète-là, c'était ce qui est parfait? Blasphème. Ce qui est parfait, c'est Jésus. Il n'est pas encore venu, donc le temps des miracles n'est pas passé. C'est encore le temps des miracles. Quand ce qui est parfait sera venu, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de dons de guérison? Jésus sera là. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de dons de prophétie? Jésus sera là, on n'aura pas besoin de tout ça, il sera là. Ce qui est parfait n'est pas encore venu. Paul ne parlait pas de Branham ou de je ne sais qui. Paul parlait de Jésus qui doit venir. Comme les anges ont dit, celui que vous avez vu partir au ciel, il reviendra de la même manière. Or, il n'est pas encore venu. Donc on peut encore prier pour les malades, on peut encore chasser les démons, les dons surnaturels n'ont pas passé, et ils ont toujours leur place chez ceux qui croient. Alors croyez. Si vous ne voulez pas croire, ben ne croyez pas. Puis inventez-vous des religions idiotes. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des religions idiotes. Ils aiment ça, ils aiment mieux le mensonge que la vérité. Bon. Ils font rien de ce que Jésus dit de faire, mais ils font d'autres choses, ils croient d'autres choses, ils publient d'autres choses. Continuez, c'est pas moi qui vais essayer de vous arrêter. Continuez, continuez. Quand vous verrez Jésus face à face, allez faire une drôle de tête. Que Dieu vous bénisse, repentez-vous. Que Dieu vous bénisse, revenez simplement à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit là est suffisant pour votre salut. et pour une bonne marche avec Dieu. Amen. Au revoir.